Code économie.
Ouverture c'est jeudi à Kinshasa du premier congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC. La confiance et la crédibilité du comptable est l'un des sujets évoqués dans les panels lors de cette première journée. Fin au maniement de la mission de supervision conjointe gouvernement Fonds international de développement agricole FIDA. Nous en parlerons avec notre invitée, Madame Rebecca Lukusa, programme analyste pour le portefeuille du bureau pays de FIDA. Bienvenue à tous. La première journée du premier congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC a vécu. Plusieurs centaines des praticiens de la comptabilité nationaux comme expatriés ont favorablement répondu à l'appel de l'ONEC. Il en est de même pour les organisations internationales de la comptabilité. Le premier panel a tourné autour de la confiance et la crédibilité du comptable. Le président de l'Ordre national des experts comptables de la RDC, ONEC, Benjamin Zaïlou, explique au micro de Daniel Tambizoni.
Notre profession, nous l'exerçons efficacement et utilement lorsque le public a confiance dans l'expert comptable. L'expert comptable, c'est le tiers de confiance.
Parlons de cette crédibilité de l'expert comptable, de la confiance que l'expert comptable doit mériter. Il y a eu quelques petites observations dans l'assistance par rapport à l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Les comptables craignent que leur profession n'a pas d'avenir dans 5-10 ans.
Bon, que les experts comptables s'inquiètent, c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il ne faut pas rester à ce niveau-là, plutôt anticiper par rapport à la situation qui pourrait être celle de l'expert comptable dans un contexte où il y a l'intelligence artificielle. Parce que à l'époque, les experts comptables s'inquiétaient du fait que les systèmes étaient de plus en plus informatisés et donc cela ne relevait plus de leurs compétences, mais ils ont pu trouver des solutions. Donc je ne doute pas que l'intelligence artificielle puisse être intégrée par les experts comptables dans leur approche.
Et vous leur dites que la profession n'a pas de danger face à l'intelligence artificielle?
Non, la profession n'a pas de danger en elle-même, mais ce sont les individus qui peuvent être en danger s'ils ne se forment pas, parce que la profession va exiger de plus en plus de compétences.
Au Nord Kivu, quatre coordinations de la société civile de la partie Nord dénoncent une surtaxation des produits de première nécessité dans leur zone. Les animateurs de ces structures dans les territoires de Lubero et de Beni ainsi que dans les villes de Butembo et Beni font cette déclaration à l'issue d'une rencontre qui les a réunis mardi à Butembo. Selon le président de la société civile de Butemboville, ceci entraîne une hausse du prix au marché de produits concernés. Il appelle les autorités nationales et provinciales à mettre fin à cette surtaxation, surtout en cette période de guerre où les trois villes de la province sont presque asphyxiées. Matt Sahane, dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Un sac de riz qui coûte 23 $, aujourd'hui c'est 26 $. Un bidon d'huile de 20 litres qui coûte 26 $, aujourd'hui c'est 30 $. À cela s'ajoute le frais d'embarquement de produits vivriers comme pommes de terre. Un camion qui on demandait 50 $, actuellement on demande 150 et ça se répercute sur le produit aux marchands quand ils vendent à détail. Donc nous avons soulevé la question d'asphyxie par les voies routières. La surtaxation des produits de première nécessité est à la une également. Voilà pourquoi nous pensons que l'IGF à travers la DGDA semblerait ne pas voir la souffrance que traverse la population du Grand Nord.
Contacté, le conseiller principal en charge de finances du gouverneur militaire du Nord Kivu dit n'est pas être au courant de cette revendication. Maître David de Moussoubao dit attendre une correspondance de la part de ces quatre coordinations de la société civile pour une réponse appropriée. Il est toujours possible d'entreprendre, quel que soit le contexte ou la situation sécuritaire. C'est ce qu'estime le professeur Dadi Salé, expert en management entrepreneurial et incubateur des affaires. Pour ce professeur d'université, tout ce qui peut se présenter à n'importe quelle circonstance est une opportunité. opportunités d'affaires pour entreprendre. Ainsi, il conseille à la population du Nord Kivu, une population résiliente, de se saisir de toute occasion et tout contexte pour en faire une opportunité d'affaires. On écoute cette analyse du professeur Dadi Salé au micro de Denis Loukesso.
Quand les gens se déplacent, par exemple, vous comprenez que l'entrepreneuriat dans tous les sens, même dans le camp. Maintenant, il faut juste orienter les choses dans le bon sens. Parce qu'effectivement, déplacés ou pas, eh bien, les gens doivent manger. Et les gens entreprennent. Vous voyez, même dans les camps de Mougoum, on a beaucoup d'entrepreneurs. Et oui, il faut comprendre que même en temps de guerre, il y a des gens qui fabriquent les armes. Des bottes, ils entreprennent. J'ai proposé au gouvernement congolais depuis un temps de faire de l'économie de guerre. J'ai dit, par exemple, comme nos militaires doivent manger, normalement, dans l'économie de guerre, le premier bénéficiaire en tant qu'entrepreneur devait être, par exemple, les enfants de Beni, les Goma, des Rutshuru. C'est eux-mêmes qui doivent effectivement entreprendre pour répondre à ces besoins-là. Et c'est possible. Donc ça ne veut pas dire que quand on se déplace ou bien quand on est en train d'être tué, qu'on ne peut pas entreprendre. Non, au contraire, puisque en entreprenant, ça fait en sorte que beaucoup de gens ne vont pas aller dans des groupes armés et les gens vont se retrouver. Il faut que l'esprit entrepreneurial soit avec nous chaque seconde. Si on n'entreprend pas, eh bien exactement, les Chinois, les Américains et les autres viennent entreprendre à notre place. Donc, il faut un esprit assez ouvert pour arriver à des solutions idoines et qui répondent aux besoins de la communauté.
En bref, 3 conteneurs des hyperguides de l'agent des douanes ont été remis ces jeudis aux cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises DGDA sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi par son directeur de cabinet Antonin Kinzo. Dans les cadres de la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs, ces hyperguides sont des manuels de référence essentiels pour les agents des douanes pour orienter leur conduite et prévenir tout risque de fraude et de coulage de recettes publiques en renforçant les capacités des fonctionnaires et en promouvant une culture de transparence et d'efficacité, a affirmé le directeur de cabinet du chef de l'État. Au total, c'est 26 000 exemplaires d'hyperguides répartis en 3 conteneurs qui ont été remis aux agents de douane. Ce projet hyperguide est piloté par la cellule d'innovation et des changements des mentalités, CICM, un service spécialisé de la présidence.
Écho d'économie.
La mission de supervision conjointe gouvernement-Fonds international de développement agricole, FIDA, a fini le week-end dernier au Maniema sa mission de supervision des activités financées par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR. Satisfaite de l'état d'avancement des activités, la mission a formulé quelques recommandations pour arriver à atteindre les objectifs du projet. Notre invitée, Madame Rebecca Lukusa, programme analyste pour le portefeuille du bureau pays de FIDA, on parle dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Madame Rebecca Lukusa, bonjour.
Bonjour.
Dans une mission conjointe avec le gouvernement congolais, vous êtes venue pour la supervision des activités menées par PADRIR dans la province. Après avoir sillonné une grande partie de cette province et là où on mène ces activités, vos constats sont communs?
Bon, effectivement, nous sommes dans une mission conjointe de supervision du programme PADRIR. Nous avons été dans plusieurs sites pour voir les réalisations, les activités appuyées par le PADRIR. Nous avons interagi avec le bénéficiaire, les services techniques. Les constats d'emblée, c'est que les programmes commencent à prendre son envol. Ça veut dire que maintenant, les services techniques sont à pied d'œuvre pour apporter l'accompagnement technique, chacun en fonction de son mandat. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Deuxièmement, on a vu les bénéficiaires qui ont produit, qui ont témoigné sur la qualité de la semence qu'ils ont reçue en termes de la productivité qu'ils ont réalisée, ce qui aussi est une bonne chose parce que, justement, PADRIR, c'est un programme de développement du secteur rural et agricole. Donc, quand les ménages producteurs font de bonnes productions, ça va influer sur l'économie locale. Mais aussi, ça va générer de revenus pour ces ménages producteurs et ils vont améliorer leurs conditions de vie.
On peut dire que FIDA est satisfait, la mission est satisfaite de réalisation des PADRIR sur terrain.
Bon, comparé à ce que nous, les missions précédentes de la supervision avaient constaté, oui, effectivement, on voit que les équipes sont au travail, font le travail. Mais il y a eu des recommandations qu'on a formulées aussi pour densifier ce qui est fait déjà et amplifier pour avoir un impact assez important à l'échelle provinciale. Donc il y a eu des recommandations qu'on leur a formulées pour ce faire.
Par exemple, quelles recommandations, madame ?
On a recommandé aux services techniques, vu que la majorité, ça c'est la situation du Maniema, qui la majorité des services techniques ont déjà leur protocole d'accord signé et ils ont commencé même à décaisser. Donc on souhaite vraiment que l'ampleur de l'accompagnement technique puisse accroître, mais aussi les formations, dans les mises à niveau, il y a des formations qui sont prévues en faveur des techniciens de terrain de ces services-là qui puissent organiser ces formations-là pour que leurs techniciens qui sont en contact quotidiennement avec les producteurs puissent apporter les formations, l'encadrement, l'accompagnement sur les itinéraires techniques en fonction du contexte, surtout qu'on est dans un contexte de changement climatique.
Madame, vous avez été par exemple au village Kenyé où les bénéficiaires ont souhaité vraiment avoir l'appui augmenter. Il y a certains d'autres qui disent qu'ils ont besoin d'être renforcés en capacité, par exemple dans des stations d'avélévinage. Ils ont formulé beaucoup de recommandations envers la mission. Qu'est-ce que vous leur dites à votre côté?
Bon, la mission a pris note des attentes que les bénéficiaires ont formulé, mais il faut aussi dire que les projets a souvent ses objectifs et les moyens qui sont limités. Donc, en fonction des priorités et de l'impact, il y a Senadepa qui est déjà à pied d'œuvre, va les accompagner parce que pour le secteur pisciculture, principalement, les gros de l'accompagnement, c'est les formations. Les pisciculteurs, les éleveurs avec lesquels on a interagi, ils font un peu les choses comme à la traditionnelle. Ils ont vraiment besoin d'être formés. C'est ça le plus important accompagnement ou appui dont ils ont besoin. Mais à côté de ça, il y a aussi des stations d'alévinage qui sont en train d'être parsemées dans la province. Et donc, ça va permettre que la fourniture en alévin s'efface localement sans trop de difficultés. Et pour cela, donc, le plus important maintenant à ce stade, c'est la maîtrise de la technicité de la conduite de la pisciculture. Et ça, Senadepa est là pour les accompagner.
Mais Madame Remeka, dans la réunion de restitution, beaucoup, plus d'une personne a demandé sur à quand les travaux des infrastructures routières, quand est-ce que vous allez débuter ces projets, parce que la population produit mais ne sait pas comment évacuer leurs produits agricoles.
Bon, à cette question, je crois que l'ingénieur responsable des infrastructures rurales a très bien répondu en disant que les infrastructures se mettent en œuvre en phase. Les activités de la composante 2 sont déjà en cours, surtout avec la mobilisation de ressources financières de OFID. Et donc, j'encourage les usagers de ces routes-là de prendre leur mal en patience parce que les actions sont en cours.
Madame Rebecca Lukusa, merci.
Je vous remercie, Madame Florence.
Fin de Écho d'économie de ce soir. Pierre Diachino a été à la prise de son, Alain Goy à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.